Quand on parle de la résistance, on a le sentiment d'évoquer un mouvement de tout temps uni et solidaire. Mais en réalité, la résistance a longtemps été morcelée et traversée par les rivalités. Trois années de division, entre 40 et 43, ça fait même 4 si on compte les intermédiaires, avant la création d'une structure mumifiée, le Conseil National de la Résistance. Et c'est cette histoire de doute et de méfiance, mais aussi d'entente et de sacrifice que raconte un documentaire à la narration étonnante et aux images soignées, film diffusé ce soir sur France 2 en partenariat avec Europe 1 et on en est ravis. Bonjour Caroline Benaroche.
Bonjour Philippe Vandel.
C'est vous qui avez réalisé ce documentaire, l'histoire secrète de la résistance, un docu-fiction. D'abord, est-ce que ce mot vous convient ?
Oui. Alors je sais que parfois il peut avoir mauvaise presse parce qu'on a peur que des images soient un peu cheap.
Ouais.
Mais en l'occurrence, on a justement, comme vous le disiez, soigné la réalisation. Donc oui, ça me convient.
Alors j'utilise ce mot parce que même si vous utilisez quelques images d'archives, j'arrive à le dire, la plupart des scènes sont des reconstitutions jouées par des acteurs, travail documentaire. Très précis.
Oui, et joué par des acteurs, beaucoup de scènes de reconstitution en effet, 80% quasiment du film, pour une seule et simple raison, il n'existe pas d'image d'archives de la résistance. Donc pour raconter cette histoire, il a bien fallu qu'on trouve comment le faire sans ces images d'archives, et c'est pour ça du coup qu'on s'est essayé à la fiction.
Mais évidemment, toutes ces reconstitutions sont basées sur des faits réels, sinon aucun intérêt.
Bien sûr.
Alors, c'est pas nouveau pour un documentaire historique de reconstituer des scènes, ce qu'il est en revanche, c'est la manière dont vous faites parler les 5 résistants que vous avez choisi de suivre. Et c'est en ça que je dis que la manière de filmer est inédite. 5 personnages historiques. Décidément, j'arrête pas de dire hystérique pour historique. Jean Moulin, Gilbert Renault, Georges Beaufils, Henri Freinet et Bertie Albrecht. Ils parlent tous face caméra, comme dans les émissions de télé-réalité. Exemple avec Gilbert Renault, alias le colonel Rémy, qui se présente ainsi dès le début du film.
Le réflexe qui me fait partir pour l'Angleterre me vient de mon éducation. Cela fait 20 ans que je me nourris des écrits de Charles Maurras, de son parti, Action Française. Comme lui, il m'est impossible de reconnaître la défaite de la France. Je vais donc tout naturellement là où il me semble que l'on continue à se battre.
Qui écrit ce que dit Gilbert Renault là ?
Alors, chaque phrase qui est prononcée par les acteurs sont tirées de leur mémoire. Donc, ce sont des verbatimes qu'on a parfois un tout petit peu réécrites pour que ce soit plus facilement, pour que les comédiens puissent les dire plus facilement. Mais à chaque fois, ce sont véritablement leurs mots tirés de leur mémoire.
Donc, c'est lui qui a vraiment dit ça.
Vraiment.
Donc, j'ai découvert, par exemple, à l'occasion, qu'ils étaient inspirés de Charles Maurras, qu'on n'imaginait
exactement
pas, de la part d'un résistant. Et c'est en ce sens-là aussi également que ce documentaire est très intéressant. Faire parler des figures historiques à la manière de candidat de télé-réalité, pardon de le dire comme ça, et plus largement accorder autant de place à la reconstitution, pourquoi avoir choisi cette manière de faire ?
Alors, je vous disais déjà parce qu'il n'y a pas d'image d'archives,
ouais.
Donc
mais
voilà.
Le face cam,
l'idée c'était aussi de garder un peu les codes du documentaire, les codes du reportage, donc d'avoir des interviews. Maintenant, on a décidé de les faire face caméra parce que c'était en quelque sorte on voulait le présenter un peu comme un journal intime, briser, si vous voulez, le quatrième mur qui peut exister entre le téléspectateur et le témoin. Voilà, qu'il parle directement au téléspectateur. Et puis ça nous semblait un peu étrange de donner l'impression qu'on avait envoyé un journaliste interviewer des comédiens aussi.
Alors puisqu'on en a parlé de la forme, ce qui frappe également dans votre film, c'est la manière de filmer justement caméra à l'épaule, au plus près des comédiens, donc des résistants. Là encore, c'était pour changer les codes classiques du documentaire.
Alors oui, on peut se dire que, si vous voulez, le cinéma souvent s'est inspiré du reportage pour donner plus de véracité, on va dire.
Juste un mot pour vous donner raison, vous remarquez qu'en ce moment, il n'y a plus une série qui ne soit tournée avec la caméra à l'épaule. Tout bouge tout le temps, toute l'image bouge tout le temps, soit à l'épaule, soit au steadicam, quasiment toutes les séries.
Bah, l'idée justement, c'était d'avoir cette caméra portée, encore une fois, de garder les codes aussi du reportage, et puis les frontières finalement entre la fiction et le documentaire et le reportage sont de plus en plus poreuses. Donc il y a des réalisateurs comme Paul Greengrass qui s'inspirent de la manière de filmer du reportage.
Dites
pour leur film. C'est le réalisateur par exemple d'un film qui s'appelle
Bloody Sunday,
exactement,
ouais.
C'est lui, Bloody Sunday. Il voulait donner l'idée d'une immersion en fait, et il a tout filmé caméra à l'épaule comme ça. Nous on s'est un peu inspiré de cela aussi, et puis à côté de ça on a travaillé la lumière, on a travaillé les cadrages à la manière du cinéma, donc on s'est vraiment inspiré aussi des codes du cinéma.
Pardon de dire les choses comme ça, c'est aussi pour toucher le jeune public ?
Exactement. Moi, je suis maman de 2 adolescentes et
ouais.
Je me suis dit que leur raconter l'histoire en ayant un rythme comme ça un peu soutenu et à la manière des séries qu'elles peuvent regarder sur les plateformes, ça pouvait sans doute faire venir des spectateurs plus jeunes.
Ça a fonctionné sur elles ? Vous leur avez montré déjà ?
Oui, et ça a fonctionné.
Et alors, la réaction ?
Eh bien, ce qu'elles ont aimé, en fait, c'est de se sentir proche de ces personnages, de se rendre compte qu'en fait, ils sont assez jeunes, à peine plus âgés qu'elles, qu'ils se posent les mêmes questions d'engagement qu'elles peuvent, elles, se poser aujourd'hui. Et donc, oui, ça a plutôt fonctionné.
Encore une question de forme avant d'en venir au fond. Est-ce que c'est également pour attirer un public plus jeune que vous avez demandé à un chanteur, à un écrivain, Gaël Faye, pour ne pas le citer, de faire la voix off de ce documentaire ?
En effet, Gaël Faye avait remporté le Goncourt des lycéens. Avec Petit Pays, donc il s'adresse à un public aussi très jeune. C'est quelqu'un qui est dans l'engagement, une figure de l'engagement, et donc c'était aussi en effet pour attirer un public plus jeune.
Alors on va en venir au fond, à l'histoire de la résistance, ou plutôt l'histoire des mouvements qui ont composé la résistance, car ce qui marque dès le début de votre doc, c'est justement la diversité de ces mouvements. L'un des tout premiers, il s'appelle le Mouvement de Libération Nationale, le MLN. Il a été créé par Henri Freinet avec Bertie Albrecht en 1940. Extrait.
Considéré dans son ensemble, nous estimons que le mouvement de De Gaulle est une erreur. Notre mouvement n'a aucun lien avec le gaullisme.
Ça manque de force.
Comment ?
Ça manque de force.
Ajoutons. Donc notre mouvement n'a aucun lien avec le gaullisme, et ajoutons, et nous ne recevons de Londres aucun ordre, ni aucun subside, et n'en recevrons jamais.
Très bien.
Allez, je prends la suite.
Nous sommes convaincus qu'on défend mieux son pays en y restant qu'en le fuyant.
Là aussi, on l'entend bien, ça va contre les clichés pour qui ne connaîtrait pas bien l'histoire de la résistance. Elle n'a pas toujours, la résistance, servi le général de Gaulle.
Non, en effet, Henri Freinet était militaire et comme beaucoup de militaires, il était pétainiste. Il était persuadé que Pétain, étant le héros de Verdun, allait préparer une revanche et qu'il préparait même secrètement une revanche. Donc
il pensait que Pétain jouait un double jeu, oui. C'est-à-dire qu'il faisait le beau, si j'ose dire, devant les Allemands.
Exactement.
Et qu'en sous-main, il préparait la revanche.
Que sa révolution nationale serait le cadre de sa revanche. Il s'est évidemment trompé. Et c'est Bertie Albrecht, qu'on entend aussi, qui est son bras droit et sa compagne, et qui va le faire évoluer, puisque elle, au contraire, n'a pas supporté du tout de voir Pétain serrer la main d'Hitler. Elle connaît la folie nazie parce qu'elle a fréquenté des réfugiés allemands qui lui ont raconté ce qui se passait là-bas. Et c'est grâce à elle qu'il va évoluer.
Autre personnage historique que vous suivez, c'est Georges Beaufils, ouvrier électricien, militant communiste, un homme qui était entré en résistance après l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie, c'était en juin 41, comme des milliers d'autres communistes qui se lancent alors dans des actes violents, les sabotages, les assassinats. La répression est alors féroce, arrestation et exécution.
Ces exécutions ne suffisent pas à calmer la fureur allemande. Puchu met en place le service de la police anticommuniste. L'unité est chargée de les traquer, multipliant les filatures, perquisitions et arrestations. Le gouvernement, lui, tente de mobiliser la population contre ces terroristes. La ville de Nantes offre une prime de 500 000 francs à tout informateur sérieux. Le maréchal Pétain soutient cette entreprise en appelant lui-même à la délation.
50 Français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom. Français, votre devoir est clair. Il faut faire cesser la tuerie, aider la justice. Un coupable retrouvé et 100 Français sont épargnés.
Les courriers sont anonymes pour la plupart. Leur volume est tel qu'il faut créer des bureaux pour les traiter.
C'est le fameux cours des 40 otages à Nantes. Puchot, c'était le ministre de l'Intérieur de Vichy. Dans quelle proportion la délation a-t-elle affaibli la résistance ?
C'est difficile à dire. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les services de Vichy vont devoir créer des officines spéciales, enfin des officines pour gérer, pour traiter ce courrier, parce qu'il est extrêmement abondant. Mais donner un chiffre précis, personne n'en est véritablement capable, ni même Olivier Vivierca, avec qui est notre conseiller historique, avec qui on a travaillé.
Pour qu'on ait un ordre de grandeur, c'était vraiment à la marge, ou c'était la moitié de la résistance était gangrénée par la délation et touchée ?
Honnêtement, c'est compliqué à dire.
À ce point-là, on ne peut pas le savoir. Ouais. Et l'infiltration ? Parce qu'il y avait aussi des Allemands qui essayaient de s'infiltrer, des agents pro-allemands.
Alors oui, ce sont de nombreux Français. En l'occurrence, il y a un Français qui s'appelle Henri de Villers qui avait infiltré le réseau de Henri Freinet et Bertie Albrecht. Donc quelques Français, pour de l'argent finalement, infiltraient les mouvements de résistance et faisaient remonter toutes les informations à Vichy. Et dans le cas du mouvement d'Henri Freinet et de Bertie Albrecht, ça a été dramatique.
Autre moment clé que vous montrez dans l'histoire de la résistance, c'est la création en 1943 du STO, le service du travail obligatoire. Vous restez avec nous, Caroline Benaroche. On continue de parler de cette histoire secrète de la résistance. Culture Média continue.
Eurodel.
En compagnie de Caroline Benaroche, l'histoire secrète de la résistance. C'est elle qui signe ce documentaire qui passe ce soir sur France 2 à 21h en partenariat avec Europe 1. Documentaire raconté par Gaël Faye et présenté par Julien Bugier, notre confrère du 18-20 d'ici. Il y a un autre moment clé dans l'histoire de la résistance que vous montrez, c'est la création, je l'ai dit, en février 43 du STO, le service du travail obligatoire. Des dizaines de milliers de jeunes Français ont été envoyés de force en Allemagne pour y travailler dans les usines du Reich. C'est Pierre Laval qui est alors le chef du gouvernement de Vichy.
À nouveau, le chef du gouvernement cède à une exigence de l'occupant. En février 1943, Pierre Laval parade devant les caméras pour saluer 200 000 jeunes Français qui partent travailler dans les usines allemandes. Mais 50 000 jeunes vont refuser ce service du travail obligatoire, le STO, et bouleverser la résistance. Ils quittent leur famille pour se réfugier dans les montagnes des Alpes et du Jura. Dans l'Ain, un homme veut leur venir en aide. Henri Petit a 42 ans et l'expérience de la clandestinité. Deux ans plus tôt, sous le pseudonyme de Roman, ce publicitaire, officier diplômé de Saint-Cyr, a créé un réseau de résistance baptisé l'Espoir.
Quel rôle les maquis ont-ils joué dans l'histoire de la résistance, Caroline Benaroche ?
Un rôle finalement primordial au moment du débarquement. Mais ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'au début, en fait, les maquis sont ignorés. Ignorés par De Gaulle, ignorés par les alliés aussi, qui n'ont pas vraiment confiance dans ces jeunes gens qui ont débarqué comme ça, sans rien. Et Henri Petit, donc, qui a rejoint le maquis de l'Ain, veut forcer quelque part la considération des alliés de De Gaulle. Et il va monter un coup d'éclat, un coup de pub génial, en organisant un défilé militaire dans les rues d'Oyonnax, une petite ville dont les Allemands sont absents. Et comme ils n'ont rien, ils vont fabriquer des armes factices en bois pour défiler. Et il va faire filmer ce défilé. Et ce sont ces images qui vont remonter jusqu'à Churchill et qui vont finalement décider les Alliés et De Gaulle à armer ces maquis en vue du débarquement.
Image que vous montrez. Oui. Dans quelle mesure les gens savaient que c'était des armes factices ? Est-ce que les gens dans la rue à Oyonnax le savaient ? Est-ce que l'occupant nazi le savait ? Est-ce que Churchill le savait ?
Alors, Churchill sûrement pas. Ouais. Les gens du village ont dû s'en rendre compte. Et les Allemands, hélas, ont fait payer assez lourdement au maquis de l'Ain ce défilé.
Donc c'est de la communication et de la provocation à l'intention même, y compris des alliés.
Oui, surtout pour en fait leur donner confiance, leur montrer que ces jeunes savent marcher au pas et qu'il faut les armer.
Et ça montre aussi cette difficulté qu'ont eu les résistants à s'armer, difficulté que montre votre film. Autre difficulté rencontrée par les résistants, il n'y a que des difficultés, mais c'est le principe de la résistance, communiquer, faire passer les infos. Les messages sont parfois écrits et cachés dans des vêtements ou alors dans des livres, d'autres sont transmis par la radio, un moyen rapide mais assez facilement détectable et pour cause, et qui demandait à la radio quelques connaissances. Et une certaine habileté, on le voit dans les premières minutes du documentaire, avec un jeune résistant, Bernard Anquetil. Racontez son histoire.
Bernard Anquetil a 24 ans. En fait, c'est Gilbert Renaud qui est chargé par le bureau du colonel Passier à Londres de faire remonter des informations de France vers la Grande-Bretagne. Et pour ce faire, il réussit à faire rentrer en France via l'Espagne un poste émetteur. Un poste émetteur, à l'époque, c'est un truc énorme de 30 kilos qui est difficilement maniable en plus. Donc il réussit quand même ce tour de force déjà à en faire rentrer en France. Et ensuite de ça, il trouve Bernard Anquetil qui a 24 ans pour jouer l'opérateur radio. C'est extrêmement dangereux parce qu'à chaque contact avec la centrale anglaise, on risque de se faire repérer par les Allemands qui traquent les ondes. Et les Britanniques à l'époque disent que l'espérance de vie d'un opérateur radio ne dépasse pas 6 mois. Et c'est hélas ce qui va se produire pour Bernard Anquetil qui, à 24 ans, sera fusillé, arrêté et fusillé par les Allemands au Mont-Valérien.
Je l'ai noté ici. Arrêté le 31 juillet 41, fusillé en octobre de la même année. On revient au fil conducteur de votre documentaire, l'union des mouvements de résistance. Ce que veut De Gaulle depuis le départ. Et c'est la mission qu'il a confiée justement à Jean Moulin, l'unification. Mission remplie en mai 43 à Paris. On va entendre la reconstitution d'une réunion aussi dangereuse que cruciale.
Le 27 mai 1943, il réunit tous les grands chefs de la résistance à Paris, au 48 rue du Four. À 600 mètres à peine du Lutetia, le QG de l'Abwehr. Si la police allemande venait à les repérer, toute la résistance serait décapitée. Le risque est fou, l'enjeu immense.
Vous avez fait bon voyage.
Très bien.
Il veut faire voter la création d'un Conseil national de la résistance, l'ébauche d'un parlement clandestin qui doit rassembler toutes les tendances politiques pour conforter la légitimité du général. Pour y parvenir, il a convié les ennemis d'hier pour en faire les alliés de demain.
Il les a conviés, mais comment a-t-il réussi à les unifier? Il ne suffisait pas de les réunir, il fallait qu'ils soient d'accord. Comment Jean Moulin a-t-il réussi?
C'est 3 ans de travail, 3 ans de discussion. Les mouvements de résistance avaient aussi beaucoup besoin d'argent. Et finalement, il a réussi aussi à les séduire en leur donnant de l'argent et en leur demandant en échange de se rallier à De Gaulle. Donc ça a été 3 ans comme ça de parlementation. Ce qui a été très compliqué aussi pendant cette réunion, c'est qu'en fait, il demandait au mouvement de résistance d'accepter la présence de personnalités politiques de la Troisième République, ceux qui avaient déserté au début de la guerre, et ça, pour beaucoup de résistants, c'était insupportable. Après, ils ont tous compris à un moment que pour que De Gaulle puisse s'imposer aussi vis-à-vis des alliés, il fallait qu'ils s'unissent tous pour permettre à De Gaulle, en fait, de parler au nom de tous les Français.
Et là, c'est encore plus tragique, c'est même pas 6 mois, fin juin 43, un mois plus tard, Jean Moulin est arrêté.
Oui, il est arrêté à Caluire. Il sera torturé par Barbie et il mourra dans le train qui le conduit en Allemagne début juillet.
Votre documentaire, Caroline Benaroche, a été salué par la presse ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu les papiers dans le Figaro, dans la Croix, dans le Parisien. C'est pas rien comme budget. Vous avez tourné quel budget? Parce que c'est quand même assez impressionnant quand on voit les images.
Alors non, c'est un petit budget. C'est pas un budget de fiction, c'est un budget de magazine. Mais avec Brainworks, on a constitué, donc la société de production, une super équipe légère mais très soudée. Le chef opérateur et le directeur photo, Sacha et Nicolas Bosino, sont 2 frères. Donc c'est vraiment une petite équipe familiale. Et c'est beaucoup de bidouilles.
Ah oui? Oui. Vous allez continuer la bidouille, prochain projet?
On réfléchit en effet à un prochain film qui conserverait un petit peu ce mode de narration qui nous a beaucoup plu.
La même forme, le thème, c'est pas encore arrêté, non. Mais vous savez que vous allez continuer dans cette forme.
On espère, on croise les doigts.
Ce qui risque de faire votre signature.
J'aimerais bien.
Et le début d'une collection. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Caroline Benaroche.
Merci.
L'histoire secrète de la résistance, c'est ce soir sur France 2 à 21h, en partenariat avec Europe 1. Documentaire raconté, la voix off, c'est Gaël Faye. Documentaire présenté par Julien Bugier, qu'on salue dans un instant.